Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Difficile de prendre du recul avec les contes des frères Grimm, tant les histoires qu'ils ont recueillies sont proches de nous. Difficile de faire ce pas de côté pour en reconnaître toute la richesse, car les contes, comme nous l'avons vu dans notre précédente émission, sont de véritables témoignages de ce que nous avons de plus profond en nous. De plus, ils sont un espace commun peuplé de symboles partagés par une grande partie de l'humanité. Eh bien, en tout cas, c'est ce que nous tenterons de faire, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, au cours de cette série. Pour cela, nous avons dégagé plusieurs grands thèmes, et le premier qui nous occupe, c'est celui de la mer.
Le roi se remaria. C'était une belle femme, mais elle était fière et arrogante, et elle ne pouvait souffrir que quelqu'un puisse la surpasser en beauté. Elle avait un miroir magique, et quand elle se plaçait devant lui et qu'elle s'y regardait, elle disait « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Et le miroir répondait « Majesté, vous êtes la plus belle du pays. » Alors, elle était satisfaite, car elle savait que le miroir disait la vérité. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour, et elle était plus belle que la reine elle-même. Un jour où celle-ci demanda à son miroir « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine prit peur et se mit à jaunir et à verdir d'envie. À compter de cette heure-là, lorsqu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans son corps, tant elle haïssait la fillette. Telle une mauvaise herbe, l'envie et l'orgueil poussaient de plus en plus haut dans son cœur, ne lui laissant plus de repos, ni le jour, ni la nuit. Un jour, elle appela un chasseur près d'elle et lui dit « Emmène cet enfant dehors, dans la forêt. Je ne veux plus la voir devant mes yeux. Tu la tueras, et tu me rapporteras ses poumons et son foie en guise de preuve. » Le chasseur s'exécuta et fit sortir Blanche-Neige dans la forêt. Mais quand il eut tiré son couteau de chasse pour transpercer son cœur innocent, Blanche-Neige fondit en larmes et lui dit « Ah, gentil chasseur, laisse-moi la vie sauve, je m'enfuirai dans la forêt sauvage et je ne retournerai plus jamais chez moi. » Et comme elle était si belle, le chasseur eut pitié d'elle et lui répondit « Alors sauve-toi, pauvre enfant que tu es. Les bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, se disait-il. » Et cependant, c'était comme si son cœur avait été libéré d'un grand poids, parce qu'il n'avait plus besoin de la tuer. Et comme un jeune marcassin passait justement par là, il le tua, en sortit les poumons et le foie, et les rapporta à la reine en guise de preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et cette méchante femme les mangea, en pensant qu'elle avait mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige.
Docteur Dominique Desmichel, nous reprenons notre réflexion sur le conte archi-connu de Blanche-Neige, qui, je suis sûr, va nous réserver bien des surprises. On voit apparaître, dès le deuxième paragraphe, la figure légendaire de la belle-mère. Serait-ce l'origine de la mauvaise réputation des belles-mères, ces pauvres femmes ?
Alors, il y a trois petits mots. Hein. On peut reprendre le texte des contes de Grimm. Hein. Un an plus tard, le roi se remaria. C'était une belle femme, mais elle était fière et arrogante. Et elle ne pouvait souffrir que quelqu'un puisse la surpasser en beauté. Voilà. Donc là, on est dans le feu de l'action. Hein. Il se passe quelque chose. C'était bien la première fois. Il y avait cette reine. On était un tout petit peu ennuyés parce qu'on se disait, tiens... Il n'y a même pas de roi. Le roi n'est pas cité. Hein. Là, c'est la première fois dans le texte que y a le roi se remaria. Et puis, voilà, elle enfante toute seule. Hein. Voilà. Ça peut, par exemple, renvoyer à la Genèse. Hein. Je vous rappelle que dans le texte de la Genèse, Ève, elle fait ses enfants avec Elohim, avec Dieu. Elle ne fait pas ses enfants avec Adam. Adam, voilà, il doit être en train de regarder un match de foot ou il fait autre chose, mais il n'est pas là, il n'est pas présent. Et c'est pour ça que c'est un petit peu de problématique après. Donc, on voit apparaître une deuxième femme. Bien évidemment, chacun sait que dans énormément de contes de Grimm, on voit le père avait perdu sa femme, il en épouse une deuxième, et puis cette deuxième, elle a en gros mauvais caractère. On voit ça dans Cendrillon, par exemple, hein, la deuxième, elle vient avec ses deux filles, et puis c'est les jeux de frérocité, je dirais, c'est-à-dire de tension à l'intérieur de la fratrie ou dans un lien sororal. Je crois qu'il faut l'entendre de deux manières. On peut l'entendre au premier degré en se disant que bah, de temps en temps...
C'est difficile.
Voilà, la pauvre Blanche-Neige, elle a perdu sa mère. Mais on peut surtout entendre, et à mon avis c'est l'essentiel du conte, c'est un message pour dire à la fille, tant que tu es toute petite, tout va bien. Ta mère, c'est la plus gentille des fées. Et ton papa, c'est le plus gentil des pompiers, gendarmes, Bruce Willis, tout ce que vous voulez. Mais que tu vas voir que c'est un peu compliqué, parce que comme tout parent, ta mère comme ton père sont des gens humains, c'est-à-dire ils ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Et là, le conte va mettre en scène un des éléments d'ombre de la mère.
De la mère. D'ailleurs, dans des versions antérieures de Blanche-Neige, il n'y a pas de belle-mère, c'est la mère qui est elle-même jalouse de sa fille.
Voilà. Mais je pense qu'il faut bien entendre que c'est juste une manière de présenter les choses. Dans les deux situations, ça ne veut pas dire du tout que, pas de chance, la mère meurt en couche ou un an plus tard. Ça veut juste dire que va apparaître les côtés sombres de la maman. De la maman dans le sens
historique. Ça ne veut pas dire non plus que les frères Grimm avaient effectivement une belle-mère odieuse et qu'ils auraient reporté ça sur leur œuvre après.
Non, je crois pas non plus. Peut-être qu'ils avaient une belle-mère parfaite, peut-être une belle-mère humaine, et puis peut-être qu'ils avaient une belle-mère odieuse, comme vous dites. C'est possible. Mais en tout cas, ce savoir-là, c'est un savoir collectif, et on sait bien que de temps en temps, les aspects sombres de la mère surgissent, et parfois ils surgissent de manière extrêmement violente.
Rentrons en profondeur dans le texte. Nous avons vu que le roi apparaissait, la belle-mère apparaît, et tout de suite le miroir apparaît. Alors ça, on sait qu'en psychanalyse, le miroir, c'est un objet extrêmement important, qui veut dire plein de choses.
Voilà, qui renvoie à l'identité. Et il ne faut pas oublier que dans le premier paragraphe, hein, juste avant qu'on dise un an plus tard, le roi se remaria, c'est-à-dire avant la mort, on a nommé l'enfant. L'enfant est né, et comment s'appelle cet enfant ? Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, on est bien en face d'une très très grande beauté et de quelque chose de virginal et de quelque chose d'immaculé. Donc Blanche-Neige, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la beauté fascinante. Et on voit les enjeux ici tout de suite de rivalité entre la mère et la fille. Et c'est de ça dont va nous parler tout le conte du début jusqu'à la fin. Donc on dit bien, c'était une belle femme. C'était une belle femme, voilà. Elle était fière et arrogante, c'est-à-dire esthétiquement, elle était comme ceci, psychiquement, c'était un petit peu plus compliqué. Et surtout, on dit son trait de caractère, elle ne pouvait souffrir que quelqu'un puisse la surpasser en beauté. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez elle, je dirais, d'une très très grande immaturité. Cette femme, elle n'a pas grandi. Elle pense que son identité propre, sa personnalité et sa valeur se réduisent à son esthétique, alors que voilà, les hommes et les femmes, en vieillissant, ils prennent des rides, ils prennent des tas de choses, voilà, le kilométrage est toujours là au compteur, mais bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'identité profonde, et on peut même penser qu'au fil de la vie, on se bonifie, on lâche des choses, on réajuste ses valeurs, et le contenu de sa propre intériorité et de sa propre valeur augmente, il me semble, avec l'âge.
Donc c'est plus l'immaturité que la véritable recherche physique, quoi, de la beauté physique,
oui,
qui est mise en avant. Ouais.
Oui, d'accord. Moi je crois que cette reine, d'emblée, elle est seule. Hein, le roi se remaria, bon bah voilà, c'est tout, mais il est jamais là, on le voit jamais. Hein. On va revoir après d'autres succès d'années, et on va revoir combien à la fin, il y a quelque chose qui transforme complètement le conte, et il me semble l'accomplit dans une certaine mesure. Donc là, il n'y a pas d'homme, et elle est réduite à sa beauté. Je crois qu'elle est vraiment toute seule, elle est fière et arrogante, c'est l'autre visage de la mère, et c'est cela que le conte veut révéler à l'enfant. Donc, on est devant cette situation-là, et la femme, elle a besoin, pour exister, qu'on lui dise qu'elle est belle. C'est mis en scène comment ? C'est mis en scène avec un miroir.
Ouais.
Voilà. Le miroir, c'est quoi ? Vous voyez bien que c'est un miroir qui parle. Ici, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Ça veut dire que cette femme, dans la vie courante, elle a besoin de voir dans le regard des autres qu'on l'admire, qu'on la trouve très belle, qu'on lui dise, qu'on l'appelle, je sais pas, par son prénom, qu'on lui dise, ah, bah, t'es vraiment ravissante aujourd'hui. Voilà.
C'est un coach, quoi.
Oui, ou en tout cas que quand elle se promène sur le trottoir, quand elle fait ses courses, que les hommes se retournent sur elle, qu'ils la regardent, qu'ils la dévisagent, avec respect ou avec concupiscence, peu importe, mais elle se sent admirée, admirable, désirée, désirable, et elle a besoin en permanence d'aller vérifier qu'elle est la plus belle. Donc, miroir, miroir, qui est la plus belle ? Dans tout le pays, et le miroir lui répond, c'est toi la plus belle. Et elle a besoin d'aller vérifier en permanence. Juste après, on dit, alors elle était satisfaite, car elle savait que le miroir disait la vérité. Et on va voir dans ce personnage du miroir qu'il est double, parce que probablement il dit une vérité, mais qu'il est là dans quelque chose qui est fait pour flatter la reine. Hein ? Donc, tant qu'il n'y a pas de danger particulier, il va dire une sorte de vérité qui va être dans la relation de ces hommes qui se retournent sur la reine. Et puis qu'à un certain moment, lui, il va probablement se détacher de ça et il va renvoyer une véracité plus factuelle. C'est-à-dire, il va dire quoi ? Mais il y a aussi d'autres femmes.
Voilà. Et la jalousie s'installe dans le conte et fait tout le nœud de cette histoire.
Voilà, pas de père, je l'ai dit, Blanche-Neige grandit, et puis un jour, dans un langage trivial, on pourrait dire, la reine, elle a pris quelques rides, peut-être que sa poitrine est tombée un petit peu, elle a peut-être quelques petites varices par-ci, par-là, et Blanche-Neige grandit. C'est intéressant de noter, d'ailleurs, qu'elle a 7 ans, et on dit que, dans le conte, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle, et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour. Et elle était plus belle que la reine elle-même. Je crois que c'est important ici de se dire belle comme le jour. Dans Podane, vous vous rappelez, on va retrouver cette notion d'une robe belle comme le jour, belle comme le soleil, voilà. Enfin, belle comme le jour, ça renvoie à ce qui se passe au crépuscule le soir. On a peur, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse de la nuit. On n'est jamais sûr que le soleil va ressortir le lendemain. Et à l'aube, la peur, les peurs tombent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il n'y a rien de plus beau ? C'est que le jour qui se lève.
Un autre personnage, j'ai envie de dire, qui est commun à énormément de contes, c'est la fameuse forêt profonde. Et ça, on le retrouve partout, dans un très grand nombre de contes. Et vous-même, vous nous avez dit dans l'émission précédente que même la version de Walt Disney mettait en valeur cette forêt profonde qui était très très angoissante. Qu'est-ce qu'elle représente, cette forêt profonde ?
Globalement, il me semble qu'elle représente l'inconscient ou les forces pulsionnelles à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsque Blanche-Neige va être chassée de cet espace-là, elle va retrouver, au fond, sa propre nuit. Hein. Dans le conte, rien ne se passe dans la nuit, ça se passe de jour. Hein. Mais dans le conte, dans le film de Blanche-Neige, elle est dans la nuit. Ce qui me semble important par rapport à cette question de la forêt qui est toujours plus sombre, c'est que intervient ici aussi, dans une certaine mesure, parce qu'il y a aussi le garde-chasse sur lequel il faut revenir, il intervient ici l'absence d'une figure masculine. On pourrait penser, si je le dis là encore dans un langage un peu trivial, on pourrait penser que le mari de la reine, le roi, dise à sa femme « Écoute, laisse tomber avec Blanche-Neige, ta fille est en train de grandir, moi je t'aime comme tu es, voilà, t'as des rides, t'as ton âge, mais je t'aime, voilà, c'est tout, voilà, on va vivre ensemble, on va faire notre vie, on va vieillir ensemble. » Blanche-Neige, elle est super mimi, voilà, quand je l'amène à l'école, il y a tous les garçons qui lui courent après, et alors, voilà, c'est comme ça, existe par toi-même. Mais dans le conte, on voit bien que le roi est invisible et que la reine est vraiment immature, d'une immaturité absolument terrifiante, puisque elle ne vit que dans son dialogue avec ce miroir, qui dit la vérité, mais on pourrait dire rien que la vérité, dans quelque chose qui est extrêmement étroit, parce qu'on pourrait dire... aussi que le miroir pourrait lui dire « Mais tu me gonfles avec tes histoires narcissiques, là, la reine, écoute, existe, je ne vais pas te raconter tous les jours que tu es la plus belle. » Voilà, existe par ailleurs et une autre modalité d'être. Or, cette reine, elle est réduite en raison de son immaturité à n'être que dans ce qu'elle renvoie aux autres. Donc, on voit bien la couleur ici qui est importante, la couleur de la forêt profonde, le blanc de la pureté, le rouge de la passion et le noir de la forêt ou le noir de la nuit qu'on a vu dans le cadre.
Un nouveau personnage apparaît.
Oui.
Le garde-chasse. Alors quel rôle symbolique prend-il ?
Alors, il est, je crois, tout à fait important. La reine, on l'a vu, elle ne peut être assurée dans son identité de reine dans sa vraie féminité intérieure, que dans le regard des autres. Elle ne peut pas donc supporter que quelqu'un d'autre soit au fond plus femme qu'elle. Hein. Dans le conte, puisque vous évoquiez la question des couleurs juste avant, on dit même, c'est assez drôle, hein, qu'elle devient verte et puis verte et jaune. Voilà, moi le médecin que je suis, il a envie d'entendre que c'est quelque chose de bilieux, hein, c'est de la couleur de la bile. Donc elle commence à se faire un petit peu de la bile. Donc Blanche-Neige est condamnée à mort. Et, pour répondre à votre question, la reine envoie son homme de main. J'aurais envie de dire son roi Fallot, Fallot avec un F-F-A-L-O-T. Son chasseur, je dirais son moins que rien, pour qu'il fasse les basbesionnes. Donc je crois que le chasseur, en fait, c'est un faux roi. C'est un roi qui tient pas la route. C'est le compagnon ou le mari de la reine, mais il fait pas son boulot. Il laisse partir Blanche-Neige, bien évidemment, dans le conte. Il la livre à son destin. Il est probablement ému, lui aussi, par sa beauté, puisqu'on dit dans le conte « comme elle était si belle », il la relâche « comme elle était si belle ». Mais c'est quand même problématique. On aimerait qu'il ait un petit peu de pitié ou une qualité de cœur.
C'est-à-dire voilà. Que pour vous, le chasseur, c'est aurait aussi un peu le symbole du père, en tout cas un visage du père.
Le chasseur, c'est la figure du roi. C'est, aussi, oui. C'est le mari de la reine, mais qui ne tient pas sa place.
Oui, j'entends bien, d'accord.
Hein, voilà. On a vu qu'il était là parce qu'il avait choisi une deuxième femme. Hein. Le roi se remaria. Et ici, c'est la même chose. Il est complètement aveugle. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de fonction maternelle dans le sens de la relation première avec l'enfant. Il n'est pas un poil maternel du tout. Et il est fasciné par la beauté de Blanche-Neige, comme probablement il a dû être fasciné par la beauté de la reine. Donc vous voyez, il est quoi ? Ben, il est un miroir parmi les autres. Donc, il est un objet. Il n'a pas de place. Hein. Il est celui qui doit dire à la reine « Oh, que tu es belle, oh, que tu es belle à longueur de journée. » Voilà. D'ailleurs, probablement, elle ne lui demande que ça, ou plus exactement, elle exige de lui qu'il lui dise tous les jours qu'elle est la plus belle. Je crois que finalement, en fait, la reine, elle s'en fout de Blanche-Neige. Elle veut avant tout rester la plus belle, tellement elle craint de ne pas exister. Je ne crois pas, au fond, que la reine ait de vrais désirs de meurtre. Elle a surtout le besoin de paraître, parce qu'elle n'arrive pas à être. Et je crois que lorsqu'elle est libérée de cette rivalité mortifère, de cette jalousie terrifiante, alors elle existe, mais elle existe pour de faux, puisqu'elle a toujours besoin d'avoir la certitude qu'elle est la plus belle. Donc je crois que ce faux roi-là, il va retourner dans ce rôle de miroir, dans cette espèce de fascination tout aussi morbide vis-à-vis de la reine. Et puis on s'en sort pas. Et puis la situation est complètement, complètement bloquée. Voilà.
Et donc on poursuit l'histoire. On sait que le chasseur prend pitié de Blanche-Neige et tue un pauvre marcassin qui passait par là.
Ouais.
Forcément, cette forêt est peuplée d'animaux sauvages qui ont aussi, dans les contes, toujours un rôle qui n'est pas anodin. Certains peuvent parler, certains peuvent
servir
de messager ou autre chose.
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'aurais envie de dire, le marcassin, on voit bien que ce n'est pas un adulte. Hein. C'est-à-dire, on sacrifie un enfant aussi. Hein. C'est l'enfant du sanglier, peut-être ça aurait pu être un autre animal. Je n'ai pas d'idée comme ça, on pourrait réfléchir sur la notion du sanglier et du marcassin. Mais ici, en tout cas, il y a encore une sorte d'enfant qui est sacrifié, un enfant innocent. Et voilà. Et on voit bien après que le poumon et le cœur de, entre guillemets, Blanche-Neige vont être cuisinés. Et là, ça renvoie à une sorte d'espèce de rite cannibalique. Autrefois, dans la période du Paléolithique, donc vraisemblablement il y a plus de 3-4 000 ans, les guerriers pensaient qu'ils pouvaient s'incorporer la force des ennemis qu'ils avaient combattus et sur lesquels ils avaient eu la victoire en mangeant quelque chose de leur corps. Hein. Je ne suis pas d'ailleurs tout à fait certain que nos ancêtres du Paléolithique étaient aussi idiots qu'on veut bien le croire, et il n'est pas impossible qu'en faisant ça, ils faisaient un rite symbolique, sachant bien qu'il y avait quelque chose de symbolique. Hein. Je vous rappelle, puisque vous vous posiez la question de savoir si on pouvait écrire des contes, que dans le livre Le Parfum, la dernière scène se termine aussi par un rite cannibalique. Si ma mémoire est bonne, ça se joue sur les bords de la Seine, sur les quais de la Seine. Et là, il va y avoir une sorte de rite cannibalique qui renvoie à la Seine, mais C-E, accent grave, N-E.
D'accord.
C'est-à-dire dans une sorte d'incorporation ici cannibalique, bien évidemment dans la scène du Jeudi Saint, elle est uniquement symbolique, une scène cannibalique où il s'agit d'intégrer l'autre pour en acquérir la puissance.
Oui, parce que ce cannibalisme, il est présent dans énormément de contes également.
Oui.
C'est vraiment une figure qui peut paraître totalement étonnante quand même. Au XVIIIe siècle, le cannibalisme a été banni depuis très longtemps.
Oui, mais c'est société. Oui, mais repensez par exemple, hein, peut-être vous avec vos enfants, moi avec les miens ou avec mes petits-enfants, de temps en temps, chez les tout-petits, on leur dit « je t'aime tellement, j'ai envie de t'embrasser fort, je te mangerai, je te mangerai hein, ». Voilà. Et on fait ça. Et voilà, on sait bien qu'on n'est pas un cannibale et qu'on ne va pas aller croquer ni mordre qui que ce soit. Donc vous voyez, dans cette idée de manger l'autre, il y a à la fois une dimension vivante, à condition qu'elle soit d'ordre symbolique, et il y a une dimension de dévoration. Hein. On reprendra peut-être une autre fois Hansel et Gretel. Hein. Hansel et Gretel, c'est l'histoire d'une mère qui engraisse ses enfants juste pour en faire des objets à consommer. Hein. Voilà. Et ensuite, elle va le mettre dans le four et ensuite, elle va les avaler. Avec toute la symbolique qu'on peut faire, qui est que le four, c'est aussi éventuellement l'utérus maternel et qu'elle ne supporte pas que les enfants s'éloignent et donc elle a envie de les remettre dans son ventre. Hein. Voilà.
Reste que toute cette deuxième partie de Blanche-Neige que nous venons de lire est vraiment empreinte d'une violence assez forte qui renvoie peut-être également au contexte du XIXe siècle qui n'était pas tendre ni avec les enfants mais ni avec les populations en règle générale. Les guerres napoléoniennes ne sont pas loin, les famines, sûrement des épidémies qui devaient décimer peut-être des villages complets. On est dans une époque de violence, mais aujourd'hui, ça nous parle encore.
Oui, je pense que ça, vous en savez probablement plus que moi. Je pense que toute la complexité des relations entre les parents et les enfants reste très, très prégnante. Et j'aurais envie de citer, par exemple, deux faits sociologiques qui me semblent importants et qui disent quelque chose au fond d'une forme d'actualité des contes. C'est premièrement les familles monoparentales dans lesquelles il y a que la mère avec ses enfants, et où donc le rôle symbolique du père, qui a, lui, sa part maternelle, de s'occuper des enfants, voilà, mais qui a aussi une fonction symbolique, à savoir de séparer l'enfant de sa mère, le séparer dans le sens d'une invitation à l'autonomie, c'est-à-dire, écoute, ta mère, elle ne va pas te brosser les dents jusqu'à que tu aies 30 ans, il faut que tu te débrouilles tout seul, voilà, apprends, je vais t'apprendre à te lasser tes chaussures, mais il faut que tu te débrouilles tout seul. Donc vous voyez, il y a ce risque au fond que la mère prise dans un rôle où elle doit occuper toutes les fonctions parce qu'elle est seule et que le père de ses enfants n'est plus là pourrait être en quelque sorte contaminée malgré elle par ce risque de dévoration ou par ce risque d'avoir envie de garder ses enfants tout le temps. Le deuxième élément sociologique qui transforme les choses, c'est que de plus en plus quand même la fonction maternelle est tenue par le père, et donc ça c'est quelque chose évidemment de très très nouveau, on ne voyait pas ça au temps du 19e siècle, et donc aussi que cette problématique par exemple du père qui va être une maman poule, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Moi, je vois ça à mes consultations, de plus en plus. Enfin, moi, pendant, je sais pas, 25 ans, j'ai suivi des enfants et parfois, je connaissais même pas le père, je l'avais jamais vu. Et maintenant, de temps en temps, ça m'est arrivé il y a une quinzaine de jours, j'ai vu un enfant avec son père et je me suis dit, je n'ai pas le visage de la mère dans la tête. Voilà, je me suis dit, mais je ne sais pas qui est la mère. Elle serait venue, je l'aurais reconnue tout de suite, mais je n'avais pas son visage dans sa tête parce que c'était pratiquement toujours le père qui venait. Donc, vous voyez, cette complexité de la relation père-mère d'un côté et enfant de l'autre, elle est très importante. Et voilà. Et on va donc se retrouver avec donc Blanche-Neige qui traverse la forêt, deux jours dans le conte, deux nuits chez Walt Disney, si ma mémoire est bonne, mais deux jours dans le conte, et qui arrive chez les sept nains.
Règlement de compte, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Émilie Glory qui nous a prêté sa voix. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Et je vous dis à la prochaine fois pour poursuivre l'exploration de l'univers des contes.